Voilà. Ça enregistre. Essayez de vous expliquer comment est né le nucléaire civil aux États-Unis. Je répète ce que j'ai dit ce matin. L'idée de faire du nucléaire civil, elle existe depuis le début, puisque les brevets de Pierre Joliot de mars 1939 évoque explicitement cette possibilité, sans qu'aucune technologie ne soit disponible. Alors, l'après-guerre, je m'enlève là, voilà. L'après-guerre est compliquée, comme toujours. Et vous savez que tout ça, ça va évoluer vers ce qu'on appelait la guerre froide à partir de 1947 et la compétition avec l'URSS jusqu'en 1989-90. Donc je vous expliquerai tous ceux qui interviennent dans ce processus qui est extrêmement complexe, puisque l'exposé est plus difficile à faire que celui de ce matin, parce que tout se déroule en parallèle et il y a des interactions extrêmement complexes qui se mettent en place. Tout ça commencera par le projet du réacteur pour le sous-marin nucléaire. Et je vous expliquerai pourquoi on a commencé par ça. Qu'est-ce qui a apporté ce projet? Ben, tout, on va dire, puisque en germe, il apparaît avec le recul du temps que les options qui ont été prises dès le début des années 50 étaient certainement optimales par rapport aux technologies qu'on utilise aujourd'hui. Et on verra que certains choix qui paraissaient très questionnables à cette époque-là, ben finalement se sont révélés sur la distance tout à fait judicieux. Et donc la transposition inespérée vers le nucléaire civil a été aussi un succès. Alors que tout était fait pour que ça capote ou que ça patine et que ça parte un peu dans toutes les directions. Alors, le projet Manhattan, je vous en ai longuement parlé ce matin. Première difficulté que j'ai aussi évoquée, c'est que par définition, ce projet, il était secret. Il l'était effectivement. Donc les données techniques étaient par définition non disponibles. On n'était pas dans la logique de dire on va faire la chose en parallèle. Rendons hommage aux scientifiques qui ont convaincu Grove d'accepter la publication du rapport Smith que j'évoquais ce matin, qui est publié 3 jours après la chute de la deuxième bombe sur Nagasaki. Alors là, les luttes d'influence entre les différents acteurs du système se mettent en place dès la fin de la guerre. Je suis la Navy. Si vous voulez faire un sous-marin nucléaire, c'est la Navy qui va faire le sous-marin nucléaire. Alors, qu'il fasse un coq, ça paraît judicieux, mais qu'il fasse ce qu'on met dedans alors qu'il n'y connaissait rien, c'est plus questionable. Voilà. De toute façon, Groves, le balèze, a dit, écoute, ferme-la, les données, c'est moi. Donc c'est moi qui vais m'occuper de la partie nucléaire, puisqu'il n'y a que moi qui sais comment ça marche. Enfin, quand j'ai dit moi, c'est mon système. Une chose qu'on dit peu, à Oak Ridge, il y avait 20 000 personnes qui avait fait le développement, et en particulier les technologies d'enrichissement du plutonium. Le fameux calutron, là, où il y avait une armée de nanas qui qui appuyait sur des boutons et qui tournait des boutons sans rien comprendre à ce qu'elle faisait, c'était pas l'objectif. Une fois que la guerre est terminée, ben, elles sont licenciées. Il y a 20 000 personnes qui disparaissent d'Oakridge. Donc l'ambiance dans les labos est, pour parler poliment, morose. Mais on voit bien qu'il faut continuer quand même avec quelque chose. Et donc, il y a un projet qui s'appelle Daniels, qui est, on en parle à table avec certains d'entre vous, l'ébauche d'un breeder. Alors, l'amiral Mills, dont je parlerai plus dans le détail, était un des moteurs dans l'avancée vers le nucléaire pour les sous-marins. Et il connaît Harry Culver, dont je vais longuement parler dans mon exposé, qui est un officier de marine, qui est à un niveau intermédiaire, qui est complètement perdu dans les profondeurs de la hiérarchie militaire. Et il l'envoie à Oakridge pour faire un stage comme vous faites aujourd'hui, en disant ben, « je connais rien au nucléaire ben, ». Monsieur Ricover est comme vous, il est un peu plus âgé, hein, il a à peu près la quarantaine. Et vous allez apprendre dans les labos qu'est-ce que c'est que la technologie nucléaire. Alors il ne va pas tout seul. Mills nomme 7 ou 8 personnes. Et vous allez là-bas et vous faites le stage pendant plusieurs mois. Et là, tout de suite, il apparaît un phénomène qui était un peu inattendu, c'est que la personnalité de Ricover est telle qu'il prend un ascendant psychologique sur tous ses collègues et il se nomme, entre guillemets, plus ou moins chef de mission. Alors qu'il a le même grade hiérarchique militaire que tous ses collègues. Donc il n'y a pas de raison, sauf de c'est moi, donc c'est moi le chef, et vous allez voir ce qu'on va faire. Donc bien sûr, on a su ce recours, mais ça ne se termine pas comme ça. C'est que le soir, on fait un débriefing obligatoire, et on fait comme ça tous les jours, et 7 jours sur 7. Ça dure 4-5 mois. Bon, les autres acceptent, pourquoi pas, hein. Alors, on va parler d'Harold Etherington. Alors, je vous ai parlé d'argonne. Donc, je répète, la répétition, c'est la base de la pédagogie. Donc, argonne, c'est le labo qui fait les développements de base du nucléaire, un labo, on va dire, universitaire, qui dépend de l'Université de Chicago, et qui n'était pas terminé au moment du lancement du projet Manhattan, et qui s'est fait dans les monts qui sont qui ressemblent un peu aux Ardennes, hein, puisque Argonne, c'est la bataille des Ardennes, de la guerre 14-18. Et un des patrons, un des scientifiques qui travaille là-bas, il s'appelle Arthur Etherington, et il fait partie de la société Alice Chalmers. Et dans ce labo, on commence à ébaucher l'idée d'un PWR. Donc, je rappelle PWR, P eau pressurisée, W de l'eau légère. Hein. Pourquoi Ricover est branché là-dessus? Tout simplement parce que lui-même est un sous-marinier. Il était sous-marinier de 33 à 39. Et donc il sait très bien la contrainte des sous-marins. Alors, je rappelle la technologie des sous-marins. Comment ça marche un sous-marin? Les gens ne le savent pas. Ça marche à l'électricité. C'est comme les téléphones portables. C'est-à-dire, on peut pas avoir un moteur à combustion interne, un moteur thermique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement. Et donc, comment ça marche? Eh bien, il faut être en surface. On fait tourner, c'est comme les voitures hybrides, on fait tourner le moteur diesel quand on est en surface, on charge les batteries, et après on fait la plongée et on marche à l'électricité. C'est comme ça que marche un sous-marin. Par contre, si je fais surface et qu'on est en période de guerre, c'est quand même un peu désagréable, parce que s'il y a le croiseur qui est juste en face, ben, il vous tire dessus et là c'est terminé. Donc, petite difficulté. Donc, il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que s'il avait un moteur nucléaire, il n'y a pas besoin de pot d'échappement. Et donc, c'est génial pour un sous-marin. Ça résout tous les problèmes. Problème, c'est que la taille du sous-marin, elle est ce qu'elle est. On ne sait pas faire des sous-marins de plus de 6 mètres de diamètre à l'époque. Et mettre le réacteur de Hanford, qui est un cube de 10 mètres de côté, dans un truc qui fait 6 mètres de diamètre, ben ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un moyen de miniaturiser le cœur de telle manière à pouvoir le mettre au sein d'une coque de sous-marin. Donc, c'est ça l'idée de départ. Et donc, c'est clair que Rick Hover, au bout d'un mois, il a compris que si on savait résoudre ce problème-là, qu'on ne lui a pas demandé de résoudre, il est un sage. Donc, tout de suite, il remonte à Nimitz. Alors, Nimitz, c'est le célèbre amiral qui a fait la bataille du Pacifique contre les Japonais, avec la bataille de Midway, par exemple. Et donc, c'est devenu le grand chef du côté marin, c'est l'amiral en chef, on va dire. Et donc, ça, c'est typique de Rick Hover. Rick Hover, c'est le petit gars qui est au milieu de la hiérarchie. Il tape direct à l'amiral en chef. Et il lui fait un courrier en disant, le nucléaire pour le sous-marin, c'est vachement bien. Et Nimitz dit, oui, je suis bien d'accord. Alors ça, c'est ce qui se passe dans la ligne militaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté civil? Cet homme est très important, Brian McMahon, parce que c'est le parlementaire au Congrès qui a fait la promotion du contrôle civil du nucléaire. Et ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur, comme toujours dans les enceintes parlementaires. Et c'est lui qui est, on va dire, le père parlementaire du CEA américain. Donc le CEA américain s'appelle l'AEC, Atomic Energy Commission, qui a été fondé le 1er janvier 1947. Donc, 14 mois après le CEA, fondé par le général de Gaulle en France. On verra qu'il aura un rôle important en 1953, parce que Rick Hover a eu des problèmes. Alors, voilà le premier président de l'AEC, Lilienthal. À Lilienthal, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du New Deal, vous savez, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis de 1933 jusqu'en 1945, où il est mort. Et c'est le seul président des États-Unis qui a fait 4 mandats. C'est après sa mort qu'on a passé un amendement à la Constitution américaine en disant on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Lilienthal, c'est un compagnon de route de Roosevelt, et il a été, à la fin de sa carrière, le président de ce qu'on appelle la Tennessee Valley Authority, qui était ce organisme qui était inventé par Roosevelt, enfin plutôt par ses collaborateurs, puisque Roosevelt, il n'a rien inventé, hein, c'était un politicien professionnel. Et qui était le développeur développement public d'infrastructures, et la Tennessee Valley Authority, c'était de mettre des barrages sur le Tennessee pour faire du boulot et augmenter les infrastructures. C'était, je rappelle, la crise de 29, 32, 33, hein. Et donc le chômage massif, et donc il fallait faire du boulot, trouver du boulot, et donc pour ça on dépensait l'argent public à fonds perdu pour, disons, essayer de relancer la machine. Bon, je passe sur ce que... Alors, l'autre personnage important, c'est donc Strauss. Strauss, c'est celui qu'on voit dans le film Oppenheimer. Hein? Alors Strauss, c'est aussi un gars qui a toujours fricoté avec les politiciens, même depuis Herbert Hoover, c'est-à-dire le prédécesseur de Franklin Delano Roosevelt. Et il a été donc, lui c'était plutôt un faucon, pour ne pas dire un vrai, mais c'est-à-dire un républicain très conservateur, et c'est pour ça qu'il s'était rangé un petit peu dans l'ambiance du macartisme, contre la coterie qui a essayé de... qui a réussi à dégommer Oppenheimer. Et il l'avait pris tout simplement parce que lui aussi... Eisenhower était un républicain. Je rappelle que Truman était démocrate, hein, au niveau, bien qu'il soit très actif aussi, très va-t-en-guerre, on va dire. Et à ce moment-là, ben, y a un problème. Il y a compétition sur des problèmes budgétaires entre des projets tels que le sous-marin nucléaire et ben, la guerre froide qui mobilise beaucoup de ressources budgétaires dans le cadre de la guerre froide, c'est-à-dire les bombardiers stratégiques, les bombes atomiques, évidemment, et tout ça, en disant, si en plus il faut qu'on fasse un moteur pour un sous-marin nucléaire, ça suffit comme ça. Bon. Et en particulier, donc, lui, il a été à l'origine de... Enfin, c'est en 50 qu'il est allé. Avant, il y a eu Bikini, je rappelle Bikini. Le premier test, l'opération Crossroad, le premier test en valeur réelle où on avait mis des bateaux autour de l'atoll de Bikini pour voir l'impact de la onde de choc de la bombe atomique. Et on a fait péter ça au-dessus de l'atoll. Et on a vu que ben, ça faisait quand même un certain nombre de dégâts plus importants que ce que l'on avait estimé. Je rappelle que le Trinity, l'essai qui avait été fait en 1945, c'était dans le désert. Donc c'est un essai terrestre. Et donc on n'avait pas vraiment mesuré, bien qu'on avait fait des choses, il y avait des choses qui avaient été détruites. Mais enfin, il y a quelques cabanes qui avaient sauté, mais on n'avait pas vraiment mesuré l'impact. Mécanique de l'onde de choc sur des structures importantes comme des bateaux de guerre. Chose qui n'était pas prévue, c'est que les Russes font péter la bombe conventionnelle en 49. Et alors ça, même les Américains ont été surpris. On a su après, en fait, que un des personnages importants du groupe théorique qui était mené par Bethe, c'est Fuchs, était un espion soviétique. Et il était bien placé puisque c'est lui qui a fait les calculs du système d'implosion. C'est lui-même qui a fait les calculs. Donc il n'a pas copié sur ce qu'a fait les Américains, il a copié sur ce qu'il avait fait lui-même, tout bêtement. Et donc c'était un espion à la solde des soviétiques, comme l'était les Rosenberg, alors que, je sais pas, vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, l'affaire des époux Rosenberg qui avait été mis en taule par le FBI dans les années 53. Il y a eu des mouvements de foule dans le monde entier pour essayer de les faire libérer. Ils n'ont pas été libérés, ils ont été exécutés, mis à mort. Et quand les archives du Kremlin ont été découvertes après la chute du mur, il est bien apparu qu'ils étaient bien des espions soviétiques. Contrairement à ce que tous les bonnes âmes occidentales avaient dit à l'époque. Et Strauss, ben, il est dans la logique des faucons. Il est très ouvert au discours celui que j'ai montré ce matin, sur le développement de la bombe, H, le Big One. Alors maintenant, on va essayer de faire une galerie de portraits de ceux qui sont dans le deuxième niveau. Ça, c'est l'adjoint d'Oppenheimer à Los Alamos. Et lui, il dit, bah oui, c'est bien pour les sous-marins, mais c'est pas la priorité number one. Donc il a été au mieux neutre, sinon négatif, sur la défense du projet de sous-marin nucléaire. Et voilà, donc le chef, monsieur le général, l'amiral Mills, qui lui a envoyé notre ami Rick Hoover faire un stage à Oak Ridge. Et il a beaucoup discuté avec l'AEC, puisque là, dès le début de l'AEC, en disant, ben, est-ce que c'est les civils ou est-ce que c'est les militaires qui s'occupent du nucléaire? Bien évidemment. Alors, on descend d'un cran, le contre-amiral, Mumba. Vous n'avez jamais entendu parler de tous ces gens-là, hein, mais c'est pour ça que je vous en parle. Il est pas beau, hein, un jeune premier. Hein. Il a fait ses études en France, à l'école navale, pas le français. Et au Bureau of Ships, ça s'appelle en termes résumés Bureau Ships. Dans le jargon américain, Bureau Ships, c'est le Bureau of Ships, c'est les arsenaux navals américains. Il était dans la mission Alsos. Qu'est-ce que c'est que la mission Alsos? C'est la mission qui a été envoyée par les Américains pour récupérer les scientifiques allemands qui pouvaient venir après la guerre les aider. Et dans la chasse, ils ont amené un gros poisson, pas dans ce domaine-là, c'est Von Braun. La mission Alsos, elle a piqué Von Braun. Mais il a piqué également des scientifiques allemands qui avaient travaillé sur la bombe allemande. Il y a quand même eu des travaux allemands. Là, il avait été dans le processus de sélection avec Mills pour dire ben, faut choisir dans la liste, faut mettre Rick Hoover. Mais Rick Hoover avait laissé tellement de traces de son passage qu'en 1953, il a. Dès ce moment-là, il était déjà connu, Rick Hoover, lui, il a voté contre lui, en disant celui-là, on n'en veut pas, c'est une tête de cochon, et il ne faut pas l'envoyer à Oak Ridge. Et il a été, entre autres, chef du Blue Chips. Et le voilà. Alors là, vous le voyez à peu près dans les années 50. Milieu des années 50. Alors lui, c'est facile, c'est comme Jules César, il est né une année ronde. Hein. Donc il est né en 1900, donc il suffit de voir l'année, on sait son âge tout de suite. Donc il est né en 1900, donc il est mort à 86 ans. Un personnage, un petit bonhomme, c'est un juif polonais, il est ingénieur électricien de formation à Annapolis et encore une fois à Columbia. Il se marie en 31, il est sous-marinier, je me suis trompé sur les dates, donc c'est 29 à 33, dragueur de mines, il fait un passage de l'ingénierie, il est commandant en 42, ce qui n'a absolument rien d'exceptionnel, il a 42 ans, hein, il est plutôt mal classé dans la hiérarchie militaire. Il est pendant la guerre au shipyard d'Okinawa, donc il fait le stage à Oak Ridge, et il est convaincu de l'intérêt de la propulsion nucléaire pour les sous-marins. Et là, alors là j'ai fait court dans cette présentation, les manœuvres diverses et variées de ses chefs, de ses opposants, de lui-même, pour obtenir le leadership de ce projet, ont duré 2 ans. Et c'est un véritable roman. Et en particulier, il a une façon spéciale, donc il s'adresse toujours au niveau le plus supérieur, mais il n'a pas le pouvoir hiérarchique de pouvoir le faire. Donc, soit il convainc sa hiérarchie de faire transiter les messages, soit, une fois qu'il a fait ça, il rédige des projets de réponse de la partie adverse qui lui sont favorables, pour que son chef dise, ce serait bien que si on recevait une lettre qui dise ceci ou cela. Voilà. Donc, il faut le faire, et ça se passe par des séquences où il ne se passe rien, et puis de temps en temps, il y a des réunions sur un autre sujet que ce sujet-là, où il y a Mills qui pète un câble et qui fait un gros caprice en disant « je veux absolument qu'on fasse le sous-marin nucléaire ». Donc, il y arrive. Il arrive puisqu'il se nomme aussi, d'une certaine manière, chef du projet de transposition qui est celui de Shippingport, dont je parlerai dans le détail. Et surtout, il y tient beaucoup. Il n'y a jamais eu d'accident nucléaire dans toutes les sous-marins nucléaires américains, ce qui est loin d'être le cas dans les sous-marins russes. Comme vous le savez, la mer de Mourmansk est un cimetière de sous-marins soviétiques, et où il y en a à peu près 60 qui ont implosé ou qui ont eu des problèmes. Voilà. Et il y a un record énorme, c'est qu'il est la seule personne qui ait jamais eu 2 médailles d'or du Congrès de l'histoire américaine. Ça montre qu'il sort quand même du cadre. Voilà. Et il a un autre corps, 63 ans de service actif à la marine. C'est Reagan qui l'a foutu dehors. Pas du tout, parce que Reagan avait contre lui. On connaît la scène. Il est convoqué. Reagan est élu président des États-Unis, ça devait être en 1981. Il est convoqué dans le bureau Oval, et le Saint-Frusquin est là, décoré et tout, et on lui fait un panégyrique qui n'en finit pas. Machin, et l'amiral, puisqu'il est amiral, il est là. Il reste au garde à vous, il dit rien. Et une fois que tous les remerciements, enfin de toutes les sonneurs lui sont rendus, il fait demi-tour et il quitte le bureau Bell sans une seule parole. C'est comme ça qu'il a fini sa carrière. Il n'a rien dit. Alors ça, même Reagan, il a eu sèche. Alors, le bonhomme, travailleur acharnant, exigeant, très compétent techniquement. Alors, c'est un point qui est capital dans sa carrière. C'est lui le meilleur ingénieur de son équipe. Et quand vous dites aujourd'hui un chef de projet, ça doit être un chef de projet, si on écoute M. Ricover, ça doit être le chef de la technique. Bon, je vous laisse ce sujet de réflexion. Hyper centralisateur, et en particulier ce qu'on appelle les pinks. Alors qu'est-ce que c'est que les Pink? C'est les copies roses des Telex. Vous n'avez pas connu ça? J'ai connu ça quand j'étais jeune, les Telex. Avant les fax, hein. Les Telex, c'est avec des machins qui tapent. Donc il y avait une liasse avec blanc, vert, jaune et rose, la dernière. Et les Pink, c'est la dernière copie. Puisqu'il n'y avait pas de photocopieuse au moment de... Donc tout ce que vous faites, vous l'écrivez et vous me donnez les Pink. Les Pinks. Autorité avec un sang, c'est un euphémisme. Un point également important, il recrute lui-même un grand nombre de collaborateurs en les mettant sous tension. J'ai lu des interviews d'embauche de Recover, c'est diabolique. C'est diabolique. Et ceux qui survivent à ça, c'est qu'ils sont bons. On a fait des décomptes de ce qu'il a fait. Il a embauché physiquement 10 000 personnes pendant sa carrière. Il a vu 10 000 personnes, de l'ingénieur supérieur au gars à l'ouvrier de base. Oui.
Comment ? C'était quoi les épreuves pour justement
ces personnes ? Eh bien, c'est des épreuves, entre autres, de culture générale. Il pose des questions sur telle poésie, ou tel ouvrage, ou tel machin. Est-ce que vous connaissez ça ? Vous connaissez pas ? Vous êtes éliminé. Entre autres. Mais j'en sortirai, si vous voulez, je pourrais vous en envoyer une ou deux, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Il cherche à court-circuiter les hiérarchies, je l'ai déjà dit. Combat les blocages bureaucratiques. Combattre, c'est bien, on peut partir en guerre et sortir la baïonnette. C'est-à-dire que s'il fait le court-circuit administratif, et il y arrive. Il croit à ses projets, c'est la moindre des choses. Il s'implique personnellement sur la technique. Et c'est aussi un adepte des modifications perpétuelles des projets en fonction de l'avancement. Si un système ne marche pas, on le change au milieu du guet. Ce que j'ai dit là, au café, met toujours en place des structures de formation. Ça, c'est un point important de son caractère. C'est-à-dire, tout ce que l'on fait, bien sûr, c'est documenté, mais il faut qu'il y ait un rebouclage permanent sur les gens qui bossent. Et donc, le stage, il faut qu'il y ait une documentation sur les travaux qui soient faits, qui servent de base à une pédagogie dans des stages de formation ultérieure. Rigoureux, grand souci de la sécurité, et pragmatique, c'est-à-dire il accepte de changer d'avis en fonction de l'évolution des projets. Donc je reviens sur les sous-marins. Alors, ça j'en ai pas parlé, le snorkel. C'est quoi le snorkel? C'est le pot d'échappement, puisque si on se met en surface pour recharger les batteries, évidemment on voit tout le sous-marin. Alors, il y a des Hollandais qui ont eu une idée, je vais mettre un pot d'échappement, il y a que le pot d'échappement qui sort, au lieu d'avoir toute la structure qui vient en surface. Mais le snorkel, ça fait quand même un sillon d'écume, et donc il est repéré aussi par les bateaux de surface. Donc c'est pas la solution idéale et sûre. Et en plus, je rappelle que la guerre a apporté le radar et le sonar. Avant la guerre, il n'y avait pas ça. Le radar, on peut considérer que c'est les Anglais qui l'ont mis au point, grâce à une invention géniale que je mets toujours dans la... Quand on me demande la liste des inventions de rupture de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment on met toujours la bombe, pas la bombe en tant que telle, mais les connaissances sur la fission. Le deuxième, c'est ma liste personnelle, c'est le magnétron. Est-ce que vous savez ce qu'est le magnétron? Le magnétron, c'est le composant électronique qui est dans votre four à micro-ondes. Voilà. C'est un... Bon, je ne vais pas vous décrire le magnétron, vous chercherez sur Wikipédia. Et le magnétron, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des impulsions très intenses et très brèves de faisceaux hyperfréquences, si vous voulez. Parce que pour que on ait un retour, enfin que la puissance du signal réfléchi soit suffisante pour être détectée dans l'antenne de réception. Et c'est le magnétron qui a été inventé par les Anglais qui a permis de mettre au point le radar et ensuite bien sûr le sonar qui est une transposition sur les ondes dans les milieux liquides. Donc l'intérêt de la... Bon, alors, donc, in fine, l'amiral Mommsen recommande la construction d'un sous-marin nucléaire avec un planning tel que ça nous mène en 1955. Alors, il y avait d'autres projets. Guppy, c'est un projet de fonctionnement anaérobie. Il y a des systèmes qui permettent de générer de l'énergie de manière anaérobie. Et puis les diesels en cycle fermé, c'est un peu la même chose. Donc voilà l'équipe, je ne me souviens plus, il y a 8 personnes. Projet d'Agnès. Donc on assiste à tous les cours et conférences sur le site. On fait un débriefing. Et on écrit tout ça. Et surtout, alors ça c'est un point que je n'ai pas évoqué encore, on implique les industriels. Alors, de son expérience de sous-marinier, il avait détecté dans les sous-marins que toute la quincaillerie, on va dire, robinetterie et équipement électrique, était étudié spécifiquement pour les besoins de la Navy, donc avec des prix absolument astronomiques. Il a dit on arrête toutes ces conneries et on va mettre des composants du commerce, from the shelf, comme on dit en anglais. Et il a dit dans le nucléaire, on va essayer de faire comme ça. Et pour faire ça, il faut s'appuyer sur les industriels qui travaillent pour l'industrie générale. Et donc, dès cette époque-là, dès l'avant-guerre, il avait des relations avec ces compagnies-là. Donc, General Electric, Westinghouse, Babcock et Wilcox, et Ali Chalmers, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, voilà la structure Bureau of Ships. Blue Ships. Regardez ce qu'a fabriqué, ce qu'ont fabriqué les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fabriqué 11 000 bateaux dans 495 chantiers navals divers et variés. Et ils ont dépensé 17 milliards de dollars de l'époque. Et ces gars-là, ces Cochrane et Mills, c'était des gars qui étaient à la tête de ces organisations. Dans ce Blue Ship, une des techniques de séparation isotopique avait été testée par un gars qui s'appelle Abelson. Et d'ailleurs, elle a été utilisée d'une façon complémentaire à la fin du cycle à Oak Ridge, disons fin 44 et le premier semestre 45, pour compléter la fourniture en plutonium. Donc l'idée, en fait, on voit de ce propulsion nucléaire non seulement pour les sous-marins, mais propulsion nucléaire en général pour les bateaux militaires, pour les bateaux d'hier, je pense aux porte-avions, et on verra d'ailleurs qu'il y a, il y a une compétition entre le projet porte-avions et le projet sous-marin. Alors, là, j'évoque, j'en parlerai qu'une seule fois de cette chose-là. La guerre est finie, la bombe a été lancée, et par exemple, la centrale de Hanford, qui était la centrale plutonigène, qu'est-ce qu'on en fait ? C'était les gens de l'armée qui gérait tout ça. Donc il a dit, ben, écoutez, on fait la proposition suivante, on va dire à General Electric. General Electric, c'est une compagnie qui est connue depuis son... General Electric, c'est la compagnie qui a été fondée par Edison, Thomas Edison, à la fin du 19e siècle, les lampes électriques. Hein, à la connaissance. Mais c'est une société qui est connue pour son implication dans la R&D en général. Elle a une culture de R&D. Alors il a dit, ben, on dit à GE, tu prends Hanford en gestion, et en contrepartie, le gouvernement te paye la construction d'un labo de R&D qui est dédié spécifiquement au nucléaire. Et ce labo s'appelle CNOLS, et il est à Schenectady. Schenectady, c'est dans le haut de l'État de New York. Vous voyez, dans les 12 Fingers, là, ou les petites montagnes qui sont là, là-haut derrière. Alors là, je vous ai parlé des militaires. Maintenant, je vais vous parler des scientifiques. Walter Zinn, c'est le grand chef d'Argonne, dont j'ai déjà parlé. C'est un Canadien. Il est d'accord techniquement sur le PWR, c'est la technique la plus facile d'accès à court terme. Il obtient le leadership des recherches académiques. Il n'est pas en fait du CEA, hein, de la AEC plus exactement. Hein. Mais évidemment, comme c'est le scientifique, ben, il veut tout pour lui. Donc la bagarre est génétique entre les militaires et les physiciens, les scientifiques. Des labos qui sont sous la houlette de l'AEC. Alors, une petite revue des conclusions de l'équipe Recover. Donc son stage a duré 9 mois. Il a fait le tour des labos. En particulier, il a baratiné avec Laurence, l'inventeur du cyclotron. Laurence, il est toujours d'accord pour tout. C'est le physicien enthousiaste, on va dire. Hein? Quelquefois, il se trompe un peu, mais bon, voilà. Et Teller, celui dont le nom m'avait échappé tout à l'heure, donc celui qui est l'inventeur, enfin le promoteur de la bombe H. Alors Teller, l'aide vis-à-vis de HSAT. Alors vous voyez là, on tombe dans le domaine de la bureaucratie qui gère la R&D au niveau gouvernemental. Et le gars qui s'occupe de ça, il s'appelle Hofstadt. Executive Secretary of the Research and Development Board at the Department of Defense. Donc, le dossier est constitué. évidemment, la commission, ben, comme c'est la chef d'Argonne, elle dit, moi, je vais m'occuper de tout. Évidemment, hein, c'est normal. Je veux que le labo soit pilote et la Navy est observatrice. Évidemment, la Navy dit effectivement complètement l'inverse. Et donc, rien ne se passe, évidemment, c'est des luttes bureaucratiques, des échanges de lettres fleuris entre les différents services. Alors, c'est là que Mills a pété son câble. À l'occasion de ce symposium, la Undersea Warfare Symposium avril 48, Mills pique la zone scolaire. Je ne sais pas dit comme ça, dans la, mais on, j'ai des témoignages écrits. Hein, et il gueule suffisamment fort pour obtenir quelque chose. Hein. Derrière tout ça, il dit, ben, oh, c'est nous qui nous occupons du nucléaire et c'est Ricoeur qui va s'en occuper. Il y a encore une phase intermédiaire où tous les lobbies souterrains essayent de dessouder Ricoeur, hein, mais ils n'y arrivent pas. Donc il est, enfin, il n'est pas tout seul, mais il y a des alliés quand même dans le système. Et donc, il est nommé chef du code 390. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors, ça, c'est les Américains qui ont une inventivité infinie dans les labellisations des organigrammes. Et plus ils sont compliqués, plus les noms sont abscons, mieux c'est. Donc, il est au code 390. Je ne me souviens plus d'où ça vient historiquement. Donc il a accès à tout, il a obtenu ça, et toute son équipe de 8 personnes qui s'étaient débandées, tout le monde était retourné dans son lieu d'origine, il rappelle tout le monde, et c'est mon équipe projet, évidemment. Donc il l'avait déjà supporté pendant 9 mois, ben, apparemment le traitement n'avait pas été trop violent, puisque quand il les rappelle, ils acceptent de venir, voilà. Donc il fait des réunions, enfin il est activiste au dernier degré. À Hofstadt, le voilà, dont j'ai déjà parlé. Alors ça, la première phrase, débat sur la place des physiciens par rapport aux ingénieurs et des labos par rapport à l'industrie. En 2023, en France, ce débat est toujours ouvert. C'est génétique. Un ingénieur, c'est pas un physicien, c'est pas un ingénieur. C'est comme ça. Donc sachez-le, et les luttes d'influence entre le CEA, EDF et Framatome sont génétiquement existentielles et dure tout le temps que ces organisations dureront. Donc sachez qu'elles existent. Alors, je ne sais pas si quelqu'un osera vous aborder le sujet dans votre... Mais c'est une réalité, il faut la connaître. Donc, au code de... Donc ça, c'est des gars qui travaillaient avec lui. Dans le stage, mais surtout, je voulais parler de ces trois-là. Harry Mandel, Bob Panoff et Ted Rockwell, c'était vraiment son trio de collaborateurs directs qui l'ont supporté pendant un certain temps, puisque en 1962, ils ont fini par lui dire « Écoute, on t'adore, mais on en a ras-le-bol, et on se tire et on fonde notre société ». Cette société, elle a un nom célèbre, elle s'appelle MPR. C'est les initiales des trois gars là. Et j'ai travaillé pendant un mois à la société MPR à Washington, qui nous aidait à faire les offres de générateurs de vapeur pour les États-Unis. Donc j'ai même une filiation personnelle avec les collaborateurs de M. Ricoeur. « Alors voilà, quand même, ça c'est un logigramme qui n'est pas inintéressant, parce que on voit que les grandes familles, de technologie étaient envisagées dès le début du projet Manhattan. Réacteur refroidi au gaz, réacteur refroidi à l'eau et réacteur à métal fondu. 1942. Donc vous voyez, l'idée n'est pas neuve. Et comme j'ai dit à certains d'entre vous, l'essentiel des technologies, des différentes technologies, était déjà inventé au sens intellectuel du terme dès les années 50. Et donc dans les water cooled, donc le premier c'est les choses de Hanford, et en plus le design only, j'y reviendrai à la fin, et donc le réacteur de sous-marin, et le nom du projet ce sera STR Mark II, le Nautilus. Alors, quelques mots sur le général électrique dont j'ai déjà parlé. Donc le projet Génie, vous voyez, c'était déjà dans la ligne des réacteurs métaux refroidis par métaux fondus. Ça tournait en autre boudin. Vous voyez, en fait, c'était un peu un projet pour utiliser les compétences des derniers physiciens qui restaient à Oak Ridge. Chez Nectali, j'en ai parlé. Et je montre celui-là parce que le grand chef technique, c'est Ewan. Vous le verrez souvent sur les photos de l'époque. Un grand balèze, on le voit par rapport aux autres. Par rapport, vous voyez, on voit le recover, il est là. Hein. Alors là, il a, vous voyez, c'est une photo qui date de 55-56, il a les quatre bandes, donc il est déjà amiral. Hein. Alors, on va parler quand même de Westinghouse, qui est le père putatif de Framatome. Alors, voilà le PDG. Et toujours pareil, Recover, ben, il tape tout de suite à la tête. Et il le convainc que c'est une bonne solution. Et le technicien opérationnel, c'est un gars qui s'appelle Weaver. Et surtout, il dit à Price, faut faire un labo de R&D comme GE a fait Knolls à Schenectady. Et il le met où? Au sud-ouest, sud-est plus exactement, de Pittsburgh. Pittsburgh qui est un peu à la source de Westinghouse, la bêtise. On verra tout à l'heure que Shippingport, c'est là. C'est à l'opposé sur la rivière, je ne sais plus si c'est sur l'Ohio, ou un affluent de l'Ohio, qui est en amont de Pittsburgh. Et donc, il fait un contrat cost plus fee. Vous savez tous ce que c'est qu'un un contrat cost plus fee? Non. Ben, ça veut dire c'est dépense réelle plus fee, ben, c'est la rémunération des services. Donc on vous paye tout ce que vous dépensez en dépenses externes et on vous paye des heures d'engineering, cost plus fee. Pourquoi? Ben parce qu'on ne sait pas où on va, donc on ne peut pas faire un contrat à forfait, puisque c'est complètement incertain. Donc, j'ai déjà cité ce gars-là, Etherington, là, qui... Alors, maintenant, on rentre dans des détails techniques. Qu'est-ce qu'on va prendre pour isoler l'élément combustible qui est un oxyde, alors soit un métal, plutonium ou uranium, soit un oxyde de ces deux métaux. Pour des problèmes, évidemment, il faut de confinement de la radioactivité de l'élément combustible vis-à-vis de... C'est la première barrière qu'on appelle ça dans le... Mais ça, vous aurez des conférences. Vous l'avez peut-être déjà eu, la technologie du PWR, pas encore ? Pas encore, ben, vous allez la voir jusqu'à l'écœurement, donc je fais court. Hein. Voilà. Donc la première barrière. Alors pareil, ben, le privé et le public passent leur temps à se chicorer en disant c'est moi qui commande, c'est moi qui ai les bonnes idées, et qu'est-ce qu'on prend, etc. etc. Alors merci les Russes. En 49, oulala, ils sont beaucoup plus en avance que ce qu'on pensait, donc il faut quand même se dépêcher, et donc ça rebousse l'idée du sous-marin nucléaire, bien évidemment, en disant, oulala, ça va, la guerre froide elle a déjà commencé, mais là, elle arrive à un palier supérieur avec l'explosion de la bombe A soviétique. Et donc, il choisit, c'est lui qui choisit le zirconium, qui a. Parce que le compromis, c'est la résistance à la corrosion, mais surtout la transparence aux neutrons. Hein. Je rappelle ça dans le critère de choix de la gaine de combustible. Il a dit, non seulement il faut qu'on s'en occupe sérieusement, mais il faut qu'on construise nous-mêmes, enfin dans le système, une usine de fabrication de zirconium. Donc voilà les premiers choix techniques. Une grande cuve. U métallique. Zirconium. Et barre de contrôle en hafnium. Hafnium, c'est un élément qui bouffe les neutrons. Ça se trouve pas sous le pied d'un cheval. Première difficulté. Aujourd'hui, on n'utilise plus de hafnium dans les barres de contrôle. C'est du bore ou des composés du bore. Et là, simplification du mécanisme de barre par rapport à argon. Alors, le débat sur le mécanisme de barre, savoir c'est... Est-ce qu'on fait un mécanisme individuel par barre ou est-ce qu'on fait un mécanisme par groupe de barres? Donc ça, c'est les gens de la sûreté qui ont des avis tranchés ou documentés sur la question. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Et surtout un choix important, le générateur de vapeur, la source chaude, sera à l'intérieur des tubes d'échange. Contrairement par exemple à ce qu'on fait dans une locomotive à vapeur, je rappelle dans une locomotive à vapeur, ce qu'on appelle la tube de feu, alors il n'y a plus de locomotive à vapeur, mais enfin quand elle existait, la source chaude est dans les tuyaux et la source secondaire est à l'extérieur des tuyaux. Dans le nucléaire, la source chaude est dans le tuyau et la source secondaire, elle est à l'extérieur du tuyau. C'est la seconde barrière de protection. Et grande attention sur la protection biologique. Dès cette époque-là, on sait la dangerosité des radiations et donc on essaye de traiter ça au mieux. Voilà l'usine de production de... Alors c'est les Crystal Bars. Parce que tout à fait initialement, je vous le verrai dans le shipping port, l'élément combustible a été imaginé comme un méplat, si vous voulez. Parce que si vous êtes physicien, vous dites comment je peux maximiser le coefficient d'échange entre la source chaude qui est l'uranium et l'extérieur. Ben le mur, c'est mieux qu'un tube, puisque le coefficient d'échange est meilleur. On verra à la fin que si on multiplie tous les critères de choix, Rick Weaver, après des mois d'hésitation, choisira la solution actuelle, c'est-à-dire les pastilles avec les gaines cylindriques. 70 ans après, on dit « Bingo, t'as bien voté ». Parce que la fabrication des méplats, un machin, c'est un casse-tête absolument indémerdable. Et il a vu aussi que les problèmes de corrosion sont loin d'être neutres, et il le dira dans des conclusions à la fin de l'exposé, où il a dit faire du nucléaire, c'est très compliqué, mais en particulier, résoudre les problèmes de lutte contre la corrosion, c'est encore plus compliqué. Bon, là, vous retrouvez des schémas bien connus. Voilà, ça j'ai déjà dit. Alors, ça c'est du Rick Weaver tout craché. Les Quakers Meetings. On pourrait appeler ça des conclaves. C'est-à-dire quand on ne sait plus ce qu'il faut faire, eh bien, on colle tous les spécialistes dans le même bocal, comme vous êtes là aujourd'hui, et vous ne sortez pas tant que la fumée blanche ne sort pas à la fenêtre. On vous apporte des sandwichs et de quoi survivre, mais vous ne sortez pas tant qu'il n'y a pas de machin. Donc, ça a pas mal marché entre les labos et la Navy. Par contre, entre les boîtes et la Navy. Par contre, avec les labos institutionnels, alors eux, non, comme c'est eux qui ont la vérité, faire des Quaker meetings, c'est pas possible. Voilà. Alors maintenant, qui est-ce qui va faire le sous-marin? Alors, vous avez le choix entre une société privée qui s'appelle Electric Boat, la bien nommée, hein, et l'Arsenal, Portsmouth Naval Shipyard. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mis, là, je crois que, in fine, c'est l'Electric Boat qui a remporté la mise. Donc, Rick Weaver, qui est chef de projet, il va plancher, comme dans Oppenheimer, devant le Congrès. Et il dit, ben voilà l'état du projet, et donnez-moi les financements pour pouvoir conduire ce projet. Il l'obtient, et donc, pour un lancement en 1951. Un point très important, il dit, oui, mais si je fais ça seulement sur la planche à dessin, on va se planter. Donc, je propose que l'on fasse, l'usine virtuelle, ça n'existe pas à l'époque, on va faire une maquette à l'échelle 1, à Idaho, je vous montrerai des photos, qui permet de valider, en particulier le piping et les circulations de personnes et les problèmes des protections biologiques. On n'a pas de CAO, on n'a que la planche à dessin traditionnelle, et donc il faut travailler sur maquette. Voilà, c'est ce que je dis là, réalisation simultanée du sous-marin et de sa maquette de validation. À l'échelle 1. Et surtout, je leur ai dit, système de formation continue par compagnonnage et prof d'université. C'est quoi le compagnonnage? C'est celui qui est le plus doué dans la matière à l'instant T qui fait l'école à ses collègues qui sont moins doués que lui. Et comme ça, de fil en aiguille. Le compagnonnage, c'est une technique qui a beaucoup été utilisée sous la Révolution, mais qui n'est plus du tout à la mode dans l'éducation nationale française. C'est un autre sujet. Bon, ça j'en ai parlé. Alors, cas typique, il dit Electric Boat, ok, mais c'est moi qui nomme le chef de chantier qui dépend de moi dans le chantier naval, Chug. Quand vous faites ça dans une boîte aujourd'hui, vous dites je vous passe un contrat pour construire ceci ou cela, mais à une condition, c'est que monsieur X soit le chef de projet chez vous. En général, les gens vous disent écoute, Pépère, tu rentres à la maison, c'est moi qui m'occupe de l'encadrement de mon projet. Et pour le reste, tu la fermes, quoi. Ben, lui, il réussit à imposer ses vues de l'extérieur. Voilà, donc ça marche. Inauguration avec Truman. Ah, il est encore là, Truman. Donc je rappelle, Eisenhower, il est élu à la fin 1952. Il rentre en fonction, vous le savez, le 20 janvier de l'année suivante, comme tous les présidents des États-Unis. Pourquoi il a choisi le nom de Nautilus ? Il l'a dit, il l'a écrit, hein, c'est Jules Verne, c'est le nom du sous-marin de 20 milieux sous les mers, bien sûr. Et le 21 janvier 1954, là c'est la bouteille de champagne, et c'est Mamie Eisenhower qui balance la bouteille de champ sur la coque du Nautilus. Donc tout ça, ça se met en place, et il fait pendant 2 ans, des essais de plongée dans toutes les mers du monde, et il visite de beaucoup de pays avec visite des officiers de ces pays, c'est-à-dire en France, en Angleterre, au Canada, en Australie, les officiers des marines de ces pays vont avoir l'accès à la visite du sous-marin. Essayez d'imaginer ça avec un sous-marin soviétique, pas facile. Pourquoi Idaho ? Ben, tout simplement, c'est au milieu de nulle part, et s'il y a un problème, parce que ça ne sert pas qu'à faire cette maquette, il y a déjà d'autres installations pour faire des essais, des boucles d'essais, on dirait aujourd'hui. Ben, pareil, les gens de l'AEC ont nommé un directeur qui se bouffe la rate avec Rick Over, ou c'est Rick Over qui se bouffe la rate avec le directeur. Donc, et il veut que ce soit les concepteurs, c'est-à-dire les boîtes d'ingénierie extérieure, qui soient leaders dans la chose. Recover s'implique, bon, je rentre rapidement. Et donc il y a des essais en continu, parce qu'il y a une maquette, mais il y a une maquette qui fonctionne. C'est une doublure, mais c'est pas une doublure en carton-pâte, c'est une doublure avec les composants en réel. Voilà à quoi ça ressemble. Donc le cœur est au centre, il y a 2 appendices comme ça de chaque côté, où il y a l'EGV et le groupe turbo-alternateur. Voilà. Et évidemment, comme ça marche, et bien évidemment, on trouve que Recover dépasse un peu la mesure, et on n'aime pas le succès dans les bureaucraties. Donc on essaye de lui couper un peu les ailes. Et ils ont trouvé une astuce très bureaucratique pour essayer de lui couper les ailes, c'est de l'empêcher de devenir amiral. Amiral, c'est le plafond de verre. Et si vous êtes amiral, vous pouvez avoir une durée de service qui dure plus longtemps, la retraite plus tardive. Pour passer le grade d'amiral, il y a des tableaux d'avancement, comme dans toutes les armées du monde, et tous les 6 mois, un panel de militaires fait la revue du tableau d'avancement et dit, ben, on monte d'un cran, tel bloc et tout, donc c'est un truc à l'ancienneté, on va dire. Mais, et là, ça se fait par consensus. C'est-à-dire, il n'y a aucun vote. Ça se passe comme ça. Voilà, ils ont trouvé l'astuce. Donc, s'il n'est pas passé amiral au 1er juillet 1953, ben, il est obligé de démissionner, de partir en fait. Et donc, la bonne affaire, on va se débarrasser enfin de cet emmerdeur qui nous casse les pieds depuis des années. Les hautes sphères dont je parlais tout à fait au début, le fameux, j'ai oublié déjà son nom, tout à fait au début, là. Celui-là, il est toujours au congrès. Et il fait savoir à la hiérarchie militaire, écoutez les gars, vous faites un tour de piste et vous réexaminez le tableau d'avancement où il y avait Ricover avait été oublié. Et Ricover passe amiral avec un vote. C'est la seule fois dans l'histoire de l'industrie de l'armée américaine où il y a eu un vote pour la nomination au grade d'amiral. Compliqué, hein. Et on n'a pas encore parlé du nucléaire civil. Et voilà. Star One Stripe Forever. Voilà. C'est pas beau, il y a la MC2. Ça, c'est des gars, c'est des marins qui sont debout sur le porte-avions. En blanc. Voilà, alors, Eisenhower, le voilà. Et surtout, un point qui est donc, je dis, sa réluctance, pour ne pas dire plus, à l'utilisation de l'arme nucléaire, en particulier pendant la guerre de Corée. Il propose un plan qui s'appelle Atom for Peace, à l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de 1953, qui dit, écoutez, la guerre ça suffit, les bombes ça suffit, il faut quand même qu'on utilise enfin les connaissances acquises pour faire quelque chose qui soit utile à l'ensemble de l'humanité. Et donc, bien sûr, il supporte le projet, c'est pas lui qui l'a inventé, de faire une transposition qui s'appellera donc le site de Shippingport. Voilà l'exemple, enfin, le truc médiatique. Alors, il a une petite boule là, où il y a une petite source qui crache des neutrons. Là, vous avez un compteur Geiger, hein. Et là, évidemment, la photo est dégueulasse, mais quand il approche la boule, évidemment, le traceur, il n'y a pas d'oscilloscope, il n'y a rien du tout, c'est le bon truc avec l'enregistreur avec des bandes perforées sur les côtés, là, et puis on voit l'aiguille qui bouge. Ah, donc voilà, c'est l'extase. Alors. Consécutivement à ça, il pousse l'AEC à changer un petit peu les règles. Parce qu'il y a une difficulté, il y a plusieurs difficultés qui restent, c'est qu'aujourd'hui, toutes les matières fissiles sont la propriété de l'État américain, et à travers l'armée. Si on veut faire du nucléaire civil, il y a un petit problème. Et puis, ben, on n'a pas toutes les billes pour faire de l'engineering correct. Donc il dit, ben, ce qu'on va faire, on va inventer un système, on va dire, on va louer les matières fissiles. C'est-à-dire, on les met à disposition, moyennant finance, aux sociétés privées. L'industrie peut prendre des brevets. Accès limité et objectif affiché d'aider à la naissance d'une industrie nucléaire, privé, civil. Alors, dans les péripéties du Congrès, on coupe le crédit pour le réacteur du porte-avions. Ce serait que partie remise. On coupe les projets innovants. On se concentre sur le PWR. Et puis, concurrence des budgets pour l'armement nucléaire. Je rappelle que c'est la guerre froide et il faut faire des bombardiers. Et toute la chaîne industrielle qui va derrière tout ça. Donc tout ça, ça coûte très cher. Alors maintenant, les militaires n'ont pas réussi à se débarrasser de l'écoleur. Maintenant, c'est les boîtes qui veulent s'en débarrasser. Parce que maintenant, on sait un peu mieux faire en disant celui-là, il nous a mis le pied à l'étrier, mais maintenant, on a envie de l'éjecter. J'y arrive pas, pour être très clair. Et il est toujours dans le système. Et donc on va parler d'une autre personne qui est très importante, qui est un des commissaires de l'ASC, c'est Murray. Donc maintenant, les supporters de Recover vont être, non pas chez les militaires, mais au sein de l'ASC. Et le fameux Murray, je vais vous montrer la photo, il fait un appel d'offres. C'est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire, enfin c'est un politique, mais c'est un haut fonctionnaire aussi, un appel d'offres en disant à l'industrie, faites-nous une offre pour faire un réacteur civil électrogène. Et il faut répondre avant le 15 février 54. Le voilà Murray. Il a une gueule d'Américain très typique. Donc, lui, c'est lui, la cheville ouvrière dans l'AEC qui supporte le projet qui s'appellera Shippingport. D'ailleurs, vous voyez, la maquette de Shippingport. Un petit stop avant la suite. Ce que je vous disais, voilà les ouvrages qu'a fait rédiger Recover suite à tous les travaux des labos. Métallurgie du zirconium, les computer codes. À cette époque-là, les ordinateurs sont apparus, donc il y a des computer codes. Métallurgie du beryllium, corrosion and wear handbook. Wear, vous savez ce que c'est, usure. Hein. Et la métallurgie du hafnium et trois volumes Physics Handbook 59-64. Donc c'est un processus qui a été continu et qui était public. À l'époque, il n'y avait rien d'équivalent dans les autres pays, en particulier l'URSS. L'URSS, tout ce qu'il faisait était non public par définition. Alors, il y a eu beaucoup de réponses parce qu'il y avait beaucoup de solutions. Donc, Yankiro, Fermi, Unbreeder, Pika, c'est le nom des sites. Hein. Elkriver, Pathfinder, BWR, HWR, HTR, Helium. Donc, vous voyez que dès cette époque-là, on a à nouveau testé les idées qui avaient été un petit peu étouffées dans le système militaire. Alors, la société qui gagne l'appel d'offres, elle s'appelle Duke and Lights. Duke and Lights, c'est une société qui est située dans l'Ohio, en Pennsylvanie. Pittsburgh, c'est en Pennsylvanie. Hein. J'ai un doute là. Bon, etc., etc. Alors, je rappelle que jusqu'à une période relativement récente, c'est-à-dire jusqu'aux années, on va dire, 2000, il y avait à peu près, on va dire, jusqu'à 1500 compagnies d'électricité aux États-Unis. 1500. Et ça pouvait être, par exemple, un gros diesel qui était dans un blé de paumé des Grandes Plaines, qui était financé par le boulanger. C'était une compagnie d'électricité locale. Alors on va dire, pour les autres compagnies qui étaient branchées sur le réseau interconnecté, on va dire, grosso modo, il y avait une compagnie par État, de dimension significative. Un seul contre-exemple, c'est Duke Power. Duke Power, c'est la partie, on va dire, côte-est, du côté des Carolines, et, oui, des Carolines, il y avait déjà 4 ou 5 États qui étaient dans le périmètre de Duke Power. Et Duke Power avait une particularité qui n'existait pas dans les autres compagnies, c'est qu'il y avait un service d'ingénierie à l'intérieur de Duke Power, alors que toutes les autres compagnies étaient des compagnies, on va dire, financières, et qui ne s'occupaient pas du tout de technique, et qui s'appuyaient exclusivement sur les compétences des fournisseurs. Westinghouse, General Electric, etc. Elles étaient dans les pattes des fournisseurs. Et c'était des contrats clés en main, non seulement l'installation, mais la maintenance et puis l'exploitation. D'ailleurs, ça a été vendu aux compagnies en disant, vous avez une centrale au charbon, ben, on va vous faire du nucléaire, ben, on remplace les boulets de charbon par des combustibles nucléaires. Et les gars l'ont cru, aussi bêtement que ça. C'était aussi simple que ça. Donc le niveau intellectuel des compagnies d'électricité de l'époque, c'était la bottom line. Voilà. Alors, tradition de coopération, c'est un euphémisme, inféodation avec les constructeurs. Alors, le PDG, il s'appelle Fletcher. Il est arrivé en 1939 et il a une formation de juriste, donc il ne connaît rien à la technique. Mais ça l'intéresse. Et comme dans tous ces métiers-là, il faut être branché un peu sur les politiques, il apprend l'appel d'offres de Murray et il est très enthousiaste pour cette chose-là. Donc finalement c'est lui qui remporte l'appel d'offres, essentiellement parce qu'il a donné, parce qu'il y a le problème du financement. Alors, c'est quoi le schéma? C'est l'AEC fait l'essentiel de l'investissement matériel, utility, ça veut dire compagnie d'électricité. L'utilité fournit le terrain, fait de la R&D et complète le budget. Voilà, très grossièrement, c'est ça. Voilà Beaver Valley. Je vous rappelle, je vous avais montré Bétis est là et Beaver Valley, c'est là. Et maintenant, alors, Shipping Port n'existe plus, et il y a une centrale qui l'a remplacée, qui s'appelle, c'est pas Beaver, mais c'est presque pareil, bon, j'ai oublié le nom, centrale que j'ai visitée. Alors, donc c'est du... Recover to cracher. Donc il définit la répartition des partenaires. Stoner Webster, c'est une société qui est bien connue aux États-Unis d'architectes ingénieurs, donc et qui existe toujours aujourd'hui et qui est renommée. Hein. Dravo, c'est le piping. Bell Sandro, c'est l'îlot nucléaire. La cuve, Combustion Engineering. Ah, il faut. Commission Engineering, c'est une société qui est basée à. Dans le Tennessee. Encore un trou de mémoire. La cuve, Babcock & Wilcox, c'est une société alors internationale qui a des filiales au Canada, mais également en Europe, dans tout, dans le monde entier, qui est chaudiériste, on va dire. Et surtout, Ricover dit, moi je veux un shift rep, c'est-à-dire un représentant permanent dans la salle de commande, et si ça tourne mal, il a le droit d'appuyer sur le bouton d'arrêt sans l'autorisation de la compagnie d'électricité. Voilà. Alors je rappelle que Fletcher, c'est un juriste, donc négociation serrée, et dit ben, d'accord, comme je ne peux pas m'opposer à ça, mais à condition de dire ben, finalement, si ça tourne mal, les dégâts collatéraux juridiques, c'est l'AEC qui les prendra en compte. Il dit ok, d'accord. Donc il refait le Nautilus. Alors, surtout un point important, tester différentes variantes de construction. On verra que dans la configuration du cœur, c'était génial, il essayait d'intégrer toutes les idées diverses et variées qui avaient germé dans les cerveaux des développeurs des différents labos. Et en particulier, la notion de core and blanket. Le cœur et la couverture. Ah voilà la bande des joyeux de riz. Vous reconnaissez Ricover. Là, vous avez le Fletcher, donc c'est le PDG de Duke & Light. Là, vous avez Strauss, qui rigole, là. Hein. Le deuxième, c'est Weaver. Non, Fletcher, il est là, et Weaver, ça c'est le patron technique de Westinghouse. Et là, celui-là, c'est un gars de l'UA, enfin, de l'AEC anglaise. Voilà la cuve. Ça ressemble furieusement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc les choix techniques d'aujourd'hui, en fait, ils viennent de chez Pinport, ça c'est clair. Il n'y a qu'une question de taille et d'adaptation à l'environnement qui a été faite dans le... Alors, ce qui est nouveau, c'est que la partie, comme on refait le coup du sous-marin, l'EGV et le groupe électronucléaire, il reste à l'horizontale par rapport à la cuve. Alors que la disposition actuelle, vous savez, ils sont verticaux autour de la cuve. Et voilà comment ça se présente vu de dessus. Ah, pour le cœur d'un porte-avions, mais c'est aussi valable pour le sous-marin nucléaire, on dit je ne vais pas faire un chargement uniforme comme on fait maintenant dans les centrales nucléaires, parce qu'on dit qu'il va falloir amener en stock sur le porte-avions un inventaire d'uranium tout à fait considérable. Donc ce n'est pas raisonnable. Donc on va faire un cœur très fortement enrichi. Et puis, on mettra une couverture faiblement enrichie tout autour. Et puis, ça permettra de tester le concept de fertilisation dans la couverture. Longue exposition de Trodix sans corrosion ni fissure. Alors ça revient de façon répétitive dans les écrits de Ricover. La corrosion, les fissures, la corrosion, les fissures, la corrosion, les fissures. bon. Et donc la couverture, c'est là, j'ai mis la date, le 26 avril 1955, on fait la couverture, selon la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, les crayons de 10 mm de diamètre, et le tube en zirconium, en zircaloy, qui fait 1 mm d'épaisseur. Ce choix-là, il a mis 6 mois pour le faire, par rapport aux éléments combustibles à plaque. Et, merci monsieur Ricoeur, t'avais choisi le bon cheval. Voilà les éléments combustibles du centre. Et vous voyez que c'est des choses qui sont des barres méplates. Laminées, collaminées avec du zirconium et de l'uranium métal dessous. Ben, je vous fais pas de détails au niveau des arrondis pour pas avoir de fissures, c'est pas gagné d'avance. Il y a le problème du contrôle, etc., etc. Par contre, pour un physicien, c'est vachement bien parce que l'échange thermique est optimisé. Voilà, donc au centre, il y a un nu de 135 à 93% au centre et une couverture en 238 qui dure pendant 7 ans et 4 charges d'initiateur. C'est-à-dire on change le cœur 4 fois pendant cette période. Voilà, puis on essaye différentes solutions. Alors, Shippingport n'est pas le premier réacteur civil qui est démarré, historiquement. C'est un réacteur anglais qui s'appelle Calder Hall et qui a gagné un an, pratiquement, enfin un an et demi, sur les Anglais. Je rappelle que les Anglais étaient restés sur une filière graphite gaz, hein, comme les Français à l'époque. Donc ça marche, sauf que les coûts d'exploitation sont 10 fois ceux d'une centrale classique d'aujourd'hui en valeur relative. Et donc c'est le fameux FOAK. Vous savez tous ce que c'est le FOAK? Non. First of a kind. Et la série c'est EOAK, each of a kind. Voilà, vous notez ça dans le. C'est des acronymes qu'il faut apprendre dans le nucléaire. Le FOAK et l'EOAK. Voilà les caractéristiques techniques. Je vous fais court. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est un planning de différentes centrales qui ont été lancées dans le cadre du programme qui s'appelle Power Reactor Demonstration Program. Voilà. Alors, celui-là, on arrive. 1er janvier 1957. L'AEC, et donc le gouvernement américain, dit « J'autorise les compagnies privées qui ont participé à tous ces projets à céder des licences à l'étranger. » Framatome acquiert la licence Westinghouse le 1er décembre 1958. Qu'est-ce qui se passe entre les deux dates? Pour être très franc, aujourd'hui, malgré toutes mes recherches, je n'ai pas obtenu de réponse extrêmement satisfaisante à ça. Parce que un contrat de licence, moi je l'ai vécu, c'est quand même un handbook qui tient sur toutes les tables ici. Donc il faut du temps pour l'écrire, c'est compliqué. C'est sophistiqué. Il y a des juristes qui montent là-dedans. Il y a des règles commerciales à mettre en place et tout et tout. Donc, ça veut dire que ça a sûrement été anticipé un petit peu avant. Et surtout qu'il y a eu des discussions préliminaires avec les licenciés potentiels. Et c'est ça qui manque dans ma frise historique. Je n'ai pas retrouvé dans les archives de Framatome, mais je vais mal chercher sûrement, comment ça s'était passé. Alors, tout ce que j'ai pu trouver, c'est que il y a des liens anciens entre la société Westinghouse et la société Schneider. Je rappelle qu'à l'époque, avant qu'il y ait Framatome, qui est-ce qui a acheté la licence? C'est la société Schneider et compagnie. Donc les métallurgistes du Creusot. Il y a des liens anciens parce qu'il y avait un partenariat dans l'activité de machines électriques. Et il y avait une société commune qui s'appelait Schneider Westinghouse, SW, dont un lointain enfant est la société qui se trouve aujourd'hui à Jeumont, dans le nord de la France, qui était une des usines qui fabriquait du matériel SW. Alors, il semblerait que ce soit le représentant de SW États-Unis qui a alerté Charles Schneider, donc qui était le patron de la société Schneider, donc dans l'année 1957, en disant il se passe quelque chose aux États-Unis, et en particulier le Westinghouse qui est impliqué dans le nucléaire, il faut absolument que la société Schneider s'intéresse à ça et, au bout du bout, achète la licence. Charles Schneider est enthousiaste. J'ai retrouvé d'autres témoignages sur ce thème-là. Mais, je dis, l'enchaînement exact des opérations qui ont mené à la création de la société, je n'ai pas trouvé de source documentaire suffisamment détaillée et précise. Je vais continuer à chercher. Je vais demander à Framatome. Mais ces questions que je me pose, je les ai posées à Framatome. Pour le moment, j'ai obtenu ça. Parce que Framatome ne connaît pas son histoire d'avant son existence. C'est aussi bête que ça. Voilà. Donc il faut retrouver dans les archives de la société Schneider. Et donc, bon, voilà. Et ça s'est pas fait uniquement avec Framatome, ça s'est passé avec KVO, avec Hitachi, avec Blackhawk, avec KEPCO. KEPCO, c'est les Coréens. Et donc, c'est assez impressionnant de voir comment ça s'est mis en place rapidement. Et donc, l'objectif d'Eisenhower et du gouvernement américain de l'époque, c'était de créer un mouvement qui allait pousser au développement du nucléaire dans le monde entier. Alors, tout ça, ça est en phase avec un autre phénomène, c'est la création d'organismes internationaux, IAEA, et comme par hasard c'est aussi en 1957, l'Euratome, le traité de l'Euratome 1958. Je rappelle que ce traité est indépendant de tous les traités de la communauté européenne, de l'Union européenne, il vit indépendamment des traités dont on parle du matin jusqu'au soir à la télé. Et il est toujours valide, à ma connaissance. Évidemment, c'est un cadre favorable à l'octroi de licence. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, dans le cadre, un mot quand même du BWR. Autant dans le PWR, il y a eu quand même une certaine filiation, une certaine continuité dans les options de design, autant dans le BWR, ça a été, comme le montre ce petit image, sinueux. C'est-à-dire qu'on a changé 36 fois de conception. Et dans les premiers, il y a une centrale qui est bien connue qui s'appelle Fukushima. Fukushima. Alors, qui a été faite par General Electric. Fukushima, d'abord c'est un design ancien, et le BWR a une contrainte particulière qui est d'avoir des cuves énormes en termes de diamètre, qui fait qu'on ne peut les installer qu'en bord de mer. Alors, si le bord de mer que vous choisissez est celui où il y a la faille océanique la plus profonde dans l'océan Pacifique, c'est pas forcément hyper génial comme localisation. Mais à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions. Et vous savez ce qui est devenu l'affaire de Fukushima. C'est le tsunami du millénaire. Et donc, malgré tous les calculs, bien évidemment, la vague a noyé les systèmes de sauvegarde et on sait ce qui s'est passé. Et donc j'arrive à la conclusion. Oui. Vous avez compris, je l'ai dit d'une façon répétitive, le succès de l'opération a été lié fondamentalement à l'existence de ce fameux amiral Rickover. Alors, en guise de dessert, je vous montre les statements extraordinaires de M. Rickover. Qu'est-ce que c'est qu'un réacteur académique? Tout le monde peut lire, là, j'ai pas besoin de traduire. Hein, c'est, hein. Non, mais c'est, les lettres sont suffisamment grosses. Ça va. Et en particulier, le réacteur académique, c'est facile de le faire avec des composants en stock, standard. Surtout qu'il n'y a ni shelf, ni composant. C'est dans la tête que ça se passe. OK ? Le réacteur est dans la phase d'étude. Il ne sera pas construit maintenant. OK ? Ah, maintenant, le réacteur réel. Donc l'académique, il est simple, petit, pas cher, léger. Il peut se construire très vite et il est multipurpose. Voilà. Alors, le réacteur pratique, il doit être construit maintenant. Il est toujours en retard. Il demande un effort gigantesque d'ingénierie, de développement. En particulier, la corrosion est un problème. Il est très cher. Ça demande très longtemps pour construire parce que le développement est trop long et ça ne marche pas bien. Il est grand, il est lourd, il est compliqué. Bon, avec ça, je veux pas, vous pouvez, ne me faites pas dire que vous allez démissionner demain en ayant lu ça, hein, en disant finalement, oulala, Framatome, c'est dangereux. Hein. Attendez, c'est pas fini. Alors, si une faute est faite, ça peut toujours être gommé. Si la faute est faite par l'ingénieur, pour me demander, et lui reste, il l'a attaché au pied comme un boulet. Hein. Ça ne peut pas être supprimé. Tout le monde peut l'avoir. Oh le vilain, il a fait une connerie. L'Académique Reactor Designer is a dilettante. Merci, monsieur Rickover. Vous êtes des dilettantes. Hein? He has not had to assume any real responsibility in connection with his project. He is free to luxuriate in elegant ideas, practical shortcoming of which can be relegated to the category of mere technical design. C'est-à-dire les bas problèmes techniques. The practical reactor designer must live with the same technical details, although recalcitrant and awkward, they must be solved and cannot be put off until tomorrow. Their solution requires manpower, time and money. Donc, il y a du boulot, les gars. Hein? Donc, méditez ça dans vos petites têtes. Et, alors, ce que on doit faire dans le programme EPR2, c'est ça doit être construit, quand on dit maintenant, c'est dans les années qui viennent. Donc, il y a du boulot. C'est pour ça qu'on embauche des jeunes frais et dynamiques. Voilà. Et je vous remercie. J'attends vos questions. Première question, c'est moi qui pose la première question, vous poserez la deuxième. Est-ce que vous connaissiez IOTA de tout ce que je viens de vous raconter? Oui, non? Donc, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Merci, j'ai bien fait de venir. Voilà. J'ai beaucoup plus souffert pour préparer ce PowerPoint que pour le premier jeudi. Il n'y a pas de bouquin qui raconte ça. C'est un assemblage de au moins une vingtaine de sources que j'ai eu beaucoup de mal à retricoter. En particulier, j'ai utilisé ça, un mémoire de la Société historique de la Navy, qui a édité l'histoire de la Navy de la Deuxième Guerre mondiale à 1970, puisque on ne vide pas l'avenir. Elle l'a édité en 1974. Ça fait 600 pages. Tout est dit, et en particulier tous les conflits interpersonnels et interservices, tout dans le détail. Dans des choses équivalentes dans le système français, je ne connais pas de choses équivalentes où, en particulier, les conflits sont explicitement détaillés. Ou alors, on en a quelques-uns qui règlent des comptes. C'est-à-dire, on a des livres de mémoire personnelle de monsieur Machin, de monsieur Truc, de madame Bidule, qui flinguent monsieur Z, de monsieur Y et monsieur A, parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien à tel ou tel moment du processus. Mais c'est plutôt règlement de compte à OK Corral, c'est pas très historique. Donc avec ça, on est toujours très embarrassé quand on essaye de se faire une opinion sur la réalité des choses, si vous voulez. En particulier sur l'histoire de la bombe atomique française, j'ai réussi à faire intervenir des gens de l'extérieur qui ont fait un truc bien. En particulier mon ami Christian Buchalet, que j'ai évoqué devant certains, qui était un des fils du général Buchalet. Le général Buchalet, c'est celui qui a fait exploser Gerbois, la bomba, à Reagan en 1960. Donc un de ses fils était chez Framatome et était le représentant de Framatome à Washington. Et donc c'est un bon copain. Et on a fait la campagne des États-Unis tous les deux dans les années 90 à 2000. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Nothing else? Non? Oui?
Pourquoi la Navy a décidé de déclasser dans les années 70 toutes ces informations? Pourquoi les a rendues publiques? C'est un petit peu des luttes internes. Pourquoi la
vie
a décidé de relâcher
toutes
ces informations?
Parce que c'est la mentalité anglo-saxonne. On travaille et puis on met à la disposition les informations, on va dire, scientifiques, basiques, pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité. Attendez, j'ai pas bien compris votre question. Parce que c'est le service historique. Donc, chez le service historique, je raconte la vraie histoire. C'est la mentalité anglo-saxonne. Je ne cache rien. Mon boulot, c'est de faire l'histoire interne de la Navy. Je l'écris. Bien sûr, ça passe par des filtres que vous pouvez imaginer. Je suppose qu'il y a eu quand même quelques adaptations. Hein. Mais c'est public. essayer d'imaginer quelque chose dans le système français, ça n'existe pas. Et vous tombez sur des mémoires personnelles de personnages particuliers qui n'ont que la vérité de leur propre témoignage. Tandis que là, ça a été fait d'une façon historique et communautaire. Essayer d'imaginer l'équivalent en Union soviétique, alors là, l'existence même d'un tel document, c'est une hypothèse. Oui. Non, les réacteurs académiques, tout est facile à faire, il suffit d'en parler comme ça dans une salle de réunion, quoi. Hein, voilà.
Non, mais en gros, je me demandais pourquoi est-ce que le réacteur de l'Europe se
fait. Bon, alors là, je sais pas tout. Je sais pas tout. Allez, je vais vous dire ce que je sais. Là, j'y vais parce que là, j'espère que les micros sont coupés, là. Sinon je ne veux pas ressortir vivant. C'est un réacteur qui a été fait par des physiciens. C'est une erreur. C'est pas des ingénieurs. On va dire, la première raison basique, c'est celle-là. Parce qu'on a voulu faire le multi-purpose, c'est-à-dire le truc flexible. Je peux essayer tous les types de combustibles, tous les flux, tous les machins, tous les bidules, tous les... Donc, l'usine à gaz interne, plus vous collez l'ASN, nouveau modèle, sur ce truc-là, il n'y a rien qui sort. Je fais court, c'est ça. Ça aurait été fait par Westinghouse ou Framatome, ce serait fini. Et pourtant, Framatome, on peut dire des choses. C'est des industriels, c'est pas des physiciens. Donc c'est des industriels. Le Superphénix a eu un peu le même problème. On donne la responsabilité à des physiciens de passer des marchés de fournitures industrielles. On se fait plaisir, mais ça marche pas. C'est l'exemple que je cite avec les éléments combustibles en plaque au lieu des éléments combustibles avec les pastilles. Allez sur Zoé, les éléments combustibles sont en plaque. Tout physicien nous dit pour faire maximiser la surface d'échange, je fais un truc plat. C'est difficile à faire, c'est impossible à contrôler, c'est pas mon problème. Moi je veux un bon flux d'échange. Donc tout le nœud du problème, il est là. L'ingénierie, c'est quoi? C'est faire le compromis entre les contraintes technologiques de fabrication des éléments et les contraintes, les exigences physiques de fonctionnement du système. Je vous ai convaincu? Pas vraiment. C'est... Mais effectivement, quand on visite Cadarache, puis qu'on passe dans le bus, puis on vous montre Julio-Horowitz, où il n'y a rien, c'est tout fermé, machin comme ça, puis on dit, ah ben c'est toujours pas fini parce qu'il y a des problèmes. Évidemment, la nana qui vous fait le baratin dans le bus, elle ne rentre pas dans les détails, je ne sais même pas si elle est au courant de tout. Mais moi ça fait... je vais à Cadarache tous les 2-3 ans. Bon, à l'occasion de visites diverses, on y va régulièrement pour voir les terres. Et ben, vous passez devant, vous avez le droit autour de l'installation, puis on vous dit toujours la même chose. Alors, pour distraire l'attention, vous voyez, ah tiens, il y a des biches là, vous savez, parce qu'il y a une faune endogène là sur le site de Cadarache, c'est très joli. Il n'y a pas que des lapins, il y a des. C'est marrant. Donc ça se balade un peu partout. Et puis, de temps en temps, on envoie les chasseurs pour un peu réguler la population. Mais bon, c'est champêtre, on va dire. Mais bon, c'est quand même un peu frustrant de voir que cette belle installation a aucun coûté un drame, évidemment. Parce que comme c'est arrêté, ben, la construction s'arrête, mais le compteur tourne toujours. Ben, voilà, c'est comme ça. Alors là, les verres n'y sont pour rien, hein. Je vous rassure tout de suite. Mais c'est quand même embêtant parce qu'une des fonctions de Jules Horowitz, c'était de faire des éléments radioactifs pour la médecine. Et maintenant, on est un peu juste en fourniture pour les radioéléments et surtout les éléments radioéléments à période courte. Donc il y a des petits réacteurs qui existent à droite à gauche, mais enfin là, on est un peu sous-dimensionné maintenant en France. Et on ne peut pas importer ça, des machins. Si vous avez des radioéléments qui font une journée de période radioactive, il ne faut pas être à 1000 km. Quoi. Sinon, il faut les envoyer, faut en TGV ou en avion, enfin c'est compliqué. Bon, ben écoutez, merci de votre attention, et puis je vais rentrer à la maison, et puis... Donc je vais, ce que je vais faire, je vous enverrai... Vous m'avez pris en photo, là?
Oui, avec le
groupe. Bon, ça va. Vous m'envoyez la photo. Oui. Donc je vais mettre les PDF et l'enregistrement audio sur le site de la SFEN Bourgogne-Franche-Comté, puis je vous enverrai le lien, vous pourrez le télécharger. Et donc c'est libre de tout droit et de tout usage, et je prends le risque de me faire taper sur les doigts parce que j'ai raconté des bêtises. Voilà. Voilà. Mais enfin maintenant je risque plus rien. Voilà. Voilà, eh ben merci. Et puis vous allez m'aider un peu à ranger tous mes clous, là, parce que c'est un peu compliqué. Bon, j'arrête.